Chapitre 34. Adrienne. Avant. Eugie est inconscient. C'est arrivé vite. Si vite que je crains qu'il n'ait absorbé une trop grande quantité de lativant que j'ai broyé et mélangé au cheval blanc. Je ne savais pas exactement quelle quantité utiliser, parce que je ne savais pas combien il allait en boire. Alors j'en ai versé suffisamment pour qu'un seul verre suffise à l'assommer. Il s'est avéré qu'il a bu toute la bouteille. Je me lève de mon bureau pour me positionner au-dessus de lui. Ses traits, presque trop beaux, sont relâchés. Un peu de bave lui dégouline au coin de la bouche, et ses cheveux blondis par le soleil sont tellement enduits de gel coiffant qu'ils pourraient rayer le marbre. J'ai une paire de ciseaux dans le tiroir de mon bureau et, un instant, je suis prise d'une envie presque irrépressible de les sortir et de les lui plonger dans la poitrine. Ça mettrait fin au chantage une fois pour toutes. Bien sûr, ce serait d'une stupidité crasse. Je suis sûre que la police découvrirait qu'il est venu ici pour un rendez-vous et qu'il n'en est jamais reparti. Je préfère ne pas finir en prison pour meurtre. Peu importe que la victime l'ait réellement et sincèrement mérité, et que le monde serait meilleur sans lui. Au lieu de me laisser aller à mon petit fantasme, j'attrape mon téléphone et j'envoie un message. Descends au rez-de-chaussée. Je contourne le bureau. Le téléphone de J dépasse de sa poche. Je l'en fais glisser délicatement, même si, vu la profondeur de son sommeil, je doute qu'il se réveille, y compris si je le voulais. Il a un iPhone d'un modèle un peu plus récent que le mien. Je prends sa main droite et applique son pouce sur le bouton d'accueil. La cellule lit son empreinte digitale et l'écran se déverrouille instantanément. Je relâche sa main et son bras retombe mollement sur le canapé. J'entre dans sa galerie photo. Il n'en a pas beaucoup. J'ai l'impression que J est un peu solitaire. Il ne parle presque jamais de ses amis. La plupart sont des photos de lui devant un miroir, torse nu. Et quelques autres où il bande ses muscles. Même certaines de lui complètement nues, que je fais défiler rapidement. Après les photos de nu, il y en a de moi. Prises sans ma permission, évidemment. Un cliché me montre en sortant de chez moi, montant dans ma voiture. Et puis une photo floue de ce qui semble être la fenêtre de ma chambre. Dieu merci, les stores sont en grande partie fermés et on ne voit pas grand-chose. Une fois que je me serai débarrassée de cette fichue vidéo, cet homme ne mettra plus jamais les pieds sur ma propriété. J'obtiendrai une ordonnance restrictive s'il le faut. Enfin, je trouve ce que je cherche. La vidéo du parking. Je la regarde encore une fois, au bord de la nausée. J'espérais que ce ne serait pas aussi grave que je le pensais, mais si, c'est vraiment grave. À force de regarder autour de moi pour m'assurer que personne ne me voit, j'ai l'air immédiatement suspecte, avant même de crever le pneu. Et puis je le crève. Et là, l'expression de mon visage est presque démoniaque. Je sursaute en entendant frapper à la porte de mon bureau. Je vais ouvrir doucement. Luke est là, un pli profond entre les sourcils. « Ok, » dit-il. « Me voilà. » Je lui tends le téléphone. « Voilà la vidéo. Je veux que tu en élimines toute trace sur ce téléphone. » Il me prend l'appareil, sans pouvoir effacer son air désapprobateur. Son index survole l'écran et je lui attrape le bras. « Ne la regarde pas !» lui dis-je. Je n'allais pas le faire. Je pince les lèvres. Tu avais l'air prêt à appuyer sur lecture. Il laisse échapper un soupir. « Je ne peux pas effacer cette vidéo du téléphone si tu ne me laisses pas toucher l'écran, Adrienne. » « Très bien. » Je recule respectueusement d'un pas et le laisse faire ses manipulations avec le téléphone. Pendant qu'il s'en occupe, je retourne dans le bureau où Eugie est toujours affalée sur mon canapé en cuir. Je l'observe, essayant de repérer les mouvements de sa poitrine. Il est très, très immobile. Bon sang, je ne l'ai pas tué quand même. Très doucement, je pose les doigts sur son poignet gauche, au niveau de l'artère radiale. Je retiens ma respiration, tout en cherchant son pouls. Je ne sens rien. Oh non ! Juste avant que je ne commence à paniquer, il est secoué d'un frisson et change de position sur le canapé, me retirant du même coup sa main. Dieu merci, il est vivant. En revanche, il va falloir que je l'aide à rentrer chez lui. Je fouille doucement dans sa poche et j'en sors son trousseau. Il a les clés de sa Porsche sur l'anneau, ainsi que quelques autres. Je ne sais pas laquelle ouvre sa porte d'entrée, mais il n'y en a pas tant que ça. Luke saura se débrouiller une fois sur place. Lorsque je sors du bureau, Luke est planté là, les bras le long du corps, le téléphone de J dans sa main droite. « C'est fait, » dit-il. « Et tu n'as pas regardé la vidéo ?»«
Non. »«
Tu le jures ?»«
Je le jure. »
Il me tend le portable et je dépose les clés de la maison dans sa paume. Il prend une brusque bouffée d'air en les voyant.
« Adrienne, » dit-il doucement, « je n'ai vraiment pas envie de faire ça. »
Ça ne va pas recommencer. J'étais partie du principe que s'il se pointait ici, il allait cesser de protester. Ce n'est pas si grave. Ses yeux sont écarquillés derrière ses lunettes.
Si, c'est grave. On l'a drogué et maintenant on s'introduit chez lui et on pirate son ordinateur. Alors si, c'est vraiment grave.
Il existe une expérience célèbre, ou devrais-je dire tristement célèbre, conduite par un psychologue de Yale nommé Stanley Milgram. L'expérience visait à mesurer la capacité des participants à accomplir des actes horribles lorsqu'ils en recevaient l'ordre d'une figure d'autorité. Les sujets étaient amenés à croire qu'ils participaient à une expérience dans laquelle ils étaient un enseignant, administrant des chocs électriques à un autre sujet, l'apprenant, chaque fois qu'il se trompait dans la réponse à une question. En réalité, l'apprenant était un acteur, et les chocs électriques étaient factices. Pendant l'expérience, l'apprenant demandait grâce. Il suppliait qu'on interrompe l'expérience, se plaignait d'un problème cardiaque. Mais l'expérimentateur qui supervisait l'étude disait au sujet de continuer à administrer des chocs de plus en plus intenses. Les sujets étaient de plus en plus mal à l'aise à mesure que l'expérience avançait, mais voici la partie la plus étonnante. Chaque sujet a administré des chocs d'au moins 300 volts, et plus de la moitié d'entre eux, un choc de 450 volts. Létal, s'il avait été réel. Le but de l'expérience était d'expliquer la psychologie génocidaire. Que les nazis avaient commis des actes terribles simplement parce qu'on leur avait ordonné de le faire. Mais j'ai une autre interprétation. Je crois que tout être humain est capable de faire des choses terribles si on le pousse à bout. Et c'est la même chose pour Luke.
S'il te plaît, fais-le pour moi, Luke.
Mes yeux se remplissent de larmes, dont je ne sais pas si elles sont réelles ou simulées.
Tu es le seul à pouvoir m'aider. C'est un type affreux. Il va me détruire si je ne retire pas cette vidéo de son ordinateur.
Il secoue la tête.
Quoi qu'il y ait sur cette vidéo, tu devrais peut-être faire avec.
C'est impossible.
Eh bien, je ne me pense pas capable de le faire.
Je recule d'un pas.
Alors c'est ça. Tu vas laisser cet homme détruire toute ma vie quand tu as la possibilité de l'arrêter.
Adrienne, les larmes coulent sur mes joues à ce stade.
Tu ne me fais pas confiance, même après tout ce temps.
Si je te fais confiance.
Alors pourquoi tu refuses de m'aider?
Luke fixe le trousseau de clés qu'il tient dans sa main. Il expire lentement.
D'accord, je ferai de mon mieux, mais je ne te promets rien.
Merci, Luke.
Je noue mes bras autour de son cou dans un geste d'affection inhabituel chez moi. D'habitude, c'est lui qui est affectueux. Mais cette fois, il reste là, raide, sous mon étreinte. Luke enregistre dans son GPS l'adresse de la maison de J, puis il s'en va, en promettant de m'envoyer un texto quand il sera sur le chemin du retour.
Je ne sais pas ce que je vais faire s'il me dit qu'il n'arrive pas à entrer dans cet ordinateur. Pour l'instant, je n'ai pas de plan B. Mais je crois en Luke. Il peut le faire.
Ça fait plus d'une heure que Luke est parti. Pendant tout ce temps, je surveille Eugie, endormi sur mon canapé. Lorsqu'il devient trop silencieux, je m'approche pour m'assurer qu'il respire encore. Mais il va bien. Si je craignais au début qu'il se réveille trop tôt, ce n'est plus le cas. Il est vraiment dans les vapes. Ma plus grande inquiétude, désormais, c'est de savoir comment je vais faire pour le ramener chez lui. Luke ne sera pas ravi de m'aider, mais je ne pense pas pouvoir me débrouiller seule.
En parlant de Luke, qu'est-ce qui lui prend tant de temps?
Je me ronge l'ongle du pouce en pensant à tout ce qui a pu mal tourner. Peut-être que Luke n'a pas réussi à entrer dans l'ordinateur,
qui est sans aucun doute protégé par un mot de passe. Peut-être qu'un voisin l'a vu entrer dans la maison et a appelé la police. Ou alors, le plus probable, c'est qu'il a décidé de renoncer et que je ne le reverrai plus jamais. Puis mon téléphone vibre. Le nom de Luke s'affiche sur l'écran. Je m'en saisis et j'appuie sur le bouton vert. Allô, Luke ?
C'est fait.
Toute l'anxiété s'évacue de mon corps et j'ai l'impression d'être sur le point de m'évanouir. Vraiment ? Tu l'as effacé de son ordinateur ?
Oui.
Oh mon Dieu ! Je souffle. Merci. Merci beaucoup. C'était difficile. Un long silence me répond à l'autre bout du fil.
Je ne veux pas en parler.
D'accord. Je me racle la gorge. Tu reviens chez moi ? Sa voix est monocorde.
Oui.
Je serre le téléphone si fort que mes doigts me picotent. D'accord. Merci d'avoir fait ça, Luke.
Ouais.
Je t'aime.
À plus tard.
Et il me raccroche au nez. Je baisse le téléphone et fixe l'écran vide, le ventre serré par un sentiment de malaise. Luke est en colère contre moi. Il a perdu tout respect pour moi. Je ne sais pas s'il a regardé la vidéo ou non, mais est-ce important ? Il est en colère parce que je l'ai forcé à faire ça. J'ai agi ainsi pour sortir Eugy de ma vie. Par la même occasion, sans le vouloir, j'en ai peut-être également éliminé Luke. Mes yeux se remplissent de larmes bien réelles. Je ne veux pas perdre Luke. Je ne regrette pas de lui avoir fait cette demande, parce que je n'avais pas le choix. Je ne veux pas arrêter de le voir, je ne veux pas qu'il vide le tiroir que je lui ai attribué dans ma chambre. Je veux vider d'autres tiroirs pour lui. Je veux qu'il emménage avec moi. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant, mais je m'en rends compte maintenant. Je veux qu'il soit là tous les soirs, pour le reste de ma vie. Je ne peux pas le perdre à cause de cette histoire. Je ne peux pas.